Belle journée à l'écoute d'Europe 1. À suivre, La France bouge avec Elisabeth Assayag et ses invités, avec aujourd'hui un air de vacances autour des glaces. Innovation, fabrication française, vous allez tout savoir autour des glaces que vous allez déguster cet été. Rendez-vous donc après le journal de 13h. Et bien sûr, vos messages, vos questions, vos réactions pendant l'émission, ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est midi et demi, le journal de la mi-journée, c'est avec vous Julien Pierce. Bonjour Julien.
Bonjour Anissa, bonjour à tous.
Ceux qui sont à l'origine de ces violences, on sait qui c'est. Et nous appelons à ce qu'ils soient sanctionnés avec la plus grande sévérité.
Jean Castex au contact de la population du quartier des Grésilles à Dijon, près d'un mois après les violents affrontements. Message de grande fermeté du Premier ministre, nous serons sur place dans ce journal. Des fraudes massives au chômage partiel. Le parquet de Paris annonce avoir ouvert une vaste enquête pour des faits qui relèvent de l'escroquerie en bande organisée. Préjudice estimé, plus d'1,7 million d'euros. Notre-Dame de demain ressemblera à Notre-Dame d'hier. En tout point, la flèche sera reconstruite à l'identique avec les mêmes matériaux. Tant pis pour les architectes qui imaginaient déjà une cathédrale plus moderne.
Il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec le savoir-faire, et c'est dommage qu'on n'ait pas utilisé une vitrine aussi importante.
On ne manque plus de tests, mais de bras pour les réaliser. Les laboratoires peinent à suivre la cadence avec les vacances. Il manque de biologistes et d'infirmiers. Et puis, cette musique commençait sérieusement à nous manquer. Le tirage au sort des quarts de finale a lieu en ce moment même. Le PSG affrontera l'Atalanta Bergame. Les Lyonnais, quant à eux, s'ils se qualifient, affronteront le Real Madrid ou Manchester City. La météo, Anissa ?
Avec une perturbation qui traverse toute la France. Aujourd'hui, cet après-midi, attention, hein, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes seront particulièrement touchés par des orages qui seront localement assez violents. Ailleurs, c'est nuageux. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était une crainte, elle est désormais confirmée. L'indemnisation du chômage partiel a donné lieu à de vastes fraudes, pas uniquement dans des petites entreprises. Le parquet de Paris a annoncé ce matin avoir ouvert une enquête d'envergure. Alain Inco, bonjour.
Bonjour.
On a affaire là à de la criminalité de très haut niveau.
Ah oui, on est très loin des petits arrangements à la petite semaine dont on a déjà parlé sur Europe 1. Ce qui a été mis au jour à Toulouse et à Limoges notamment, c'est une fraude massive qui porte probablement sur des dizaines de millions d'euros, peut-être même davantage. Les investigations ne font que commencer. Le principe est simple, les escrocs se sont fait passer pour des entreprises existantes qui n'avaient pas fait de demande de chômage partiel. Ils ont utilisé le nom de ces entreprises et leur numéro d'identification SIRET pour remplir des télédéclarations. Mais bien évidemment, au dernier moment, ils ont donné à l'administration un autre numéro de compte bancaire. Et la plupart du temps, l'argent ainsi récolté est reparti à l'étranger. Dans la région Occitanie, plus de 160 entreprises ont ainsi été flouées. Les enquêteurs ont identifié plus d'une centaine de comptes bancaires frauduleux. Ailleurs, en France, on dénombre à ce stade plus d'un millier de sociétés concernées. Plus d'1,7 million d'euros ont été indûment versés, mais plus de 6 millions d'euros ont pu être bloqués in extremis en raison de la complexité, la très grande complexité, comme il est précisé dans les textes, de cette criminalité organisée. Tout cela a été centralisé au parquet de Paris, donc qui va coordonner toutes les enquêtes. Enquêtes confiées à plusieurs services, services de police, de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière et services de la gendarmerie avec l'Office central de lutte contre le travail illégal.
Les précisions d'Alain Inco, chef du service police-justice d'Europe 1. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin étaient ce matin à Dijon dans le quartier des Grésilles, près d'un mois après les violents affrontements entre jeunes locaux et les communautés tchétchènes. Jean-Gabriel Bourgeois, vous avez suivi pour Europe 1 ce déplacement axé sur les forces de l'ordre et la politique de la ville, et le Premier ministre est allé au contact des habitants du quartier des Grésilles.
Effectivement, le Premier ministre est venu ici à Dijon à la rencontre des forces de sécurité à qui il a redit son total engagement, à la rencontre des élus, mais aussi des acteurs de terrain, des associations du quartier des Grésilles qui se sont sentis abandonnés au moment des événements du mois dernier, des comportements que Jean Castex a qualifiés d'inadmissibles et qui l'ont scandalisé. C'était aussi l'occasion d'un échange avec plusieurs habitants. Écoutez sa discussion avec Hamid, un soignant des Grésilles.
Comment cela se fait-il que quand on a été... les événements se sont passés, comment ça se fait que le préfet lui-même en personne s'est dit en insécurité au quartier, c'est comme ça qu'il a excusé son non-déplacement.
Vous êtes senti ce soir-là
il y a des gens en insécurité.
Ceux qui sont à l'origine de ces violences, on sait qui c'est. Et nous appelons à ce qu'ils soient sanctionnés avec la plus grande sévérité. Ils sont venus mettre la panique ici dans le quartier.
Alors pour son premier déplacement en dehors de l'Île-de-France depuis son entrée à Matignon, Jean Castex était accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, un peu en retrait ce matin. Une visite donc symbolique face aux associations qui ont demandé à ce qu'on donne une lueur d'espoir aux habitants du quartier. Première réponse du Premier ministre, l'annonce de renforts de police. Une vingtaine d'effectifs sont attendus pour la rentrée à Dijon.
Jean-Gabriel Bourgeois en direct de Dijon pour Europe 1. Les forces de l'ordre et leurs pratiques qui sont au cœur des ultimes recommandations de Jacques Toubon. Une semaine avant de passer la main, le défenseur des droits vient d'adresser à Gérald Darmanin une liste de préconisations sur le maintien de l'ordre. Il réclame à nouveau l'interdiction des LBD, Marion Dubreuil.
Oui, vous savez, ces fameux lanceurs de balles de défense qui ont remplacé les flashballs. Les LBD ont provoqué l'éborgnement de plusieurs manifestants, dont Jérôme Rodriguez, l'un des leaders des Gilets jaunes. Autre cheval de bataille de Jacques Toubon, la fin des NAS. Il s'agit de cette technique des forces de l'ordre qui consiste à encercler les manifestants. L'institution demande également la clarification du cadre juridique des interpellations dites préventives qui permettent d'écarter des individus porteurs d'objets qui ne représentent pas toujours un danger, comme des lunettes de piscine ou des gilets jaunes. Enfin, Jacques Toubon s'oppose au port de la cagoule pour les policiers en civil. Il déplore que certaines procédures soient classées parce qu'un fonctionnaire n'a pas pu être identifié. La réforme du maintien de l'ordre, c'est l'un des dossiers épineux du ministère de l'Intérieur que Christophe Castaner a légué à son successeur. Un nouveau schéma national devait être publié en janvier dernier. Le chantier a depuis été délaissé. Le défenseur des droits rappelle donc Gérald Darmanin à ses responsabilités avant une rentrée sociale qui s'annonce compliquée.
Marion Dubreuil, les nominations de Gérald Darmanin accusé de viol et d'Éric Dupond-Moretti, critique envers le mouvement MeToo, continuent de faire des remous. Plusieurs associations féministes appellent à des rassemblements aujourd'hui dans toute la France, mais aussi à l'étranger comme à Bruxelles. À Toulouse, la manifestation a commencé il y a quelques minutes. À Paris, Marseille, Rennes et Lille, ce sera cet après-midi et ce soir. Lille, où Blandine, membre du collectif Nous Toutes, battra le pavé de la Grand Place en fin de journée.
On attend beaucoup de monde pour manifester notre colère et notre stupéfaction face à ce nouveau gouvernement. Moi, déjà, j'habite Lille, la ville de Tourcoing, où M. Darmanin a été réélu au premier tour en tant que maire. C'est juste à côté de chez nous. On a déjà stupéfait de voir ça et ensuite le voir nommé à l'intérieur. Il est accusé de viol. C'est un message terrible qu'il envoyait. Moi, j'étais vraiment stupéfaite, dégoûtée. J'étais vraiment en colère, vraiment en colère. Et M. Dupond-Moretti, il est le premier à revendiquer des slogans anti-féministes, à pointer du doigt les femmes qui ont parlé après MeToo. Et c'est lui qui va être à la tête de la justice française. C'est vraiment la colère.
Militante du collectif féministe Nous Toutes, jointe par Jean-Jacques Herry. L'Académie des Césars, fortement critiquée en interne pour son sexisme et son entre-soi, décide de se renouveler et de changer en profondeur. La présidence sera désormais assurée par un tandem homme-femme. Une stricte parité sera aussi respectée dans toutes les instances de l'association. Des sénateurs de tous bords mettent en garde contre l'emprise croissante de l'islam radical en France. Dans un rapport, ils préconisent notamment l'interdiction des territoires territoire pour les cadres des frères musulmans, une plus grande surveillance des clubs de sport, on en reparlera dans le journal de 13h, ou encore le renforcement du renseignement territorial.
Il est 12h37.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, on va vous emmener dans une entreprise durement touchée par la crise, mais où syndicats et salariés sont soulagés ce matin. Un accord de chômage partiel de longue durée vient d'y être signé, c'est le premier en France. A tout de suite.
12h40 sur Europe 1, la suite du journal, Julien Pierce.
C'est une première en France. Un accord de chômage partiel de longue durée vient d'être signé dans une entreprise. Il s'agit de l'équipementier aéronautique Safran, très affecté par la crise. Certains salariés auront un temps de travail réduit de 40%, mais grâce à la compensation de l'État, ils toucheront la quasi-totalité de leur salaire net. Pas de licenciement également dans les 18 prochains mois. Aurélien Fleureau a contacté les syndicats de Safran, très satisfait de cet accord.
Très rapidement, on s'est rendu compte que nous avions une baisse de charge de 40%, et ce qui pouvait correspondre à éventuellement jusqu'à 12 000 postes en trop dans le groupe.
Passer de 12 000 emplois menacés à 3 000 départs anticipés à la retraite et 6 000 salariés concernés par l'activité partielle longue durée, sentiment du devoir accompli pour Daniel Barbereau, coordinateur force ouvrière au sein du groupe Safran.
C'est une première en France, oui. On est la première société à avoir négocié cet accord. On préfère que tout le monde fasse un effort un an plutôt que 30 000 traversent la crise et que 12 000 restent au pas de la porte. Nous avons négocié un accord pour permettre aux personnes qui avaient l'âge de départ en retraite de partir par des mesures incitatives.
L'accord garantit entre 90 et 93% du salaire net aux 6000 personnes en activité partielle longue durée. Côté direction, des concessions ont aussi été réalisées. Pas de dividendes en 2020. Moins que d'habitude, c'est une promesse en 2021. Et les embauches ne seront pas gelées. 300 jeunes diplômés et environ 400 apprentis vont intégrer Safran, où tout le monde espère une reprise de l'activité aéronautique d'ici 2 à 3 ans maximum.
Aurélien Fleureau, l'emploi avant tout, c'est le message que les partenaires sociaux ont fait passer hier à Jean Castex, qui les a reçus toute la journée à Matignon, entrevues qui vont se poursuivre cet après-midi. Et c'est suffisamment rare pour le souligner, syndicats et patronats sont tous sur la même longueur d'onde. Ils ne veulent pas entendre parler de réforme des retraites dans les prochains mois. Sauver l'emploi tout en négociant pour réduire les déficits, c'est possible, a assuré ce matin sur Europe 1 la nouvelle ministre du Travail, Elisabeth Borne.
Il y a unanimité sur le fait que la priorité des prochains mois, c'est de faire repartir notre pays, de faire repartir notre activité et de sauver le maximum d'emplois et d'en créer des nouveaux, notamment au travers du plan de relance. Donc c'est la priorité.
Donc on
ne
va pas faire comme le président de la République le dit, on ne va pas faire la réforme des retraites tout de suite, on va d'abord s'accorder à sauver le pays et sauver l'emploi.
Alors, on va avoir cette priorité, mais on ne peut pas pour autant ignorer qu'il y a aussi un dossier qui existe, la situation financière des régimes de retraite. C'est fortement dégradé du fait de la crise. Mmh. Et puis, la nécessité d'avoir un système plus juste, elle demeure. Donc, il y a la nécessité de trouver une méthode avec les partenaires sociaux pour voir comment on peut aborder aussi ce sujet.
La ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui était l'invitée de Pierre de Villeneuve ce matin à 8h15. Vous l'avez compris, l'emploi est la préoccupation de tous. Le gouvernement ne le cache pas, la rentrée sera difficile avec une multiplication des plans sociaux en perspective. Alors comment faire face à cet afflux de chômeurs qui, pour certains, souhaitent se réorienter, changer de filière? Eh bien, dans les Hauts-de-France, on mise tout sur la formation. Dans cette région qui compte 560 000 chômeurs, 90 000 places sont disponibles pour apprendre un nouveau métier. Et souvent, il y a un contrat à la clé, comme pour cette jeune Lilloise rencontrée par Maximilien Carlier.
C'est une micro-brasserie éco-responsable. Le singe savant. Des cuves en inox, des bouteilles, des tuyaux partout. Ça sent le houblon, le malt, un peu comme le bol de céréales au petit déjeuner. Cette odeur, Colline baigne dedans chaque jour.
J'avais envie de reconnecter avec un travail qui avait plus de sens pour moi. J'étais beaucoup devant un PC dans un bureau.
Tout est allé très vite pour cette ancienne styliste. 2 stages en immersion et puis surtout 3 mois de formation brassicole financée par Pôle emploi avec un tuteur, Guillaume, cofondateur de la micro-brasserie.
Ça permet à la personne qui est en train d'être formé de garder ses indemnités chômage. Et nous, de notre côté, ça nous permet d'apprendre à connaître la personne, voir si effectivement ça fonctionne bien et puis de transformer ça en embauche, ce qui s'est passé là.
Un CDD pour Colline, un travail pas loin de chez elle d'ailleurs. D'après Nadine Crignier, directrice Pôle emploi dans les Hauts-de-France, il y a une tendance qui se dessine chez les demandeurs d'emploi.
Depuis le Covid, en fait, il y a la volonté d'être sur des choses qui relèvent du développement durable, rester plus en proximité de son domicile et du coup à regarder quels sont les métiers disponibles pour ne plus avoir ces déplacements à réaliser.
Et 6 mois après la fin d'une formation, 1 chômeur sur 2 retrouve un travail dans les Hauts-de-France. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Le cap des 12 millions de cas de Covid-19 déclarés dans le monde vient d'être franchi. Plus de la moitié se trouve aux États-Unis où 65 000 nouvelles infections ont été recensées hier. Nous ne pourrons pas vaincre la pandémie si nous ne sommes divisés, déclare le directeur de l'OMS, organisation que va quitter les États-Unis à la demande de Donald Trump. En France, nous sommes en théorie capables de réaliser 700 000 dépistages par jour. On en a beaucoup manqué au plus fort de l'épidémie. Mais désormais, les tests sont là, en nombre, problème, nous manquons désormais de personnel. Pénurie de main-d'œuvre dans les laboratoires pour prendre en charge les patients. Il faut parfois attendre jusqu'à 4 jours pour pouvoir être testé, comme l'ont confié à Justin Morin des professionnels du secteur.
On constate là, ces derniers jours vraiment une augmentation des demandes pour laquelle on n'arrive pas à faire face.
Le biologiste Anthony Moucher est l'un de ceux qui a donné l'alerte. C'est le patron d'un réseau de 7 laboratoires dans le nord de Nantes, également représentant du syndicat des biologistes dans le Pays de la Loire. Le constat, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel.
Ce prélèvement doit être fait par du personnel habilité qui correspond aux biologistes ou aux infirmières. Donc du personnel qui est très sollicité par tous les établissements et notamment les hôpitaux qui recrutent actuellement beaucoup d'infirmières.
Et puis beaucoup sont aussi partis en vacances. Or, la demande ne faiblit pas. Certaines compagnies aériennes réclament un test récent pour prendre l'avion. Des campagnes de dépistage massif sont aussi lancées, comme en Mayenne. Or, il y a déjà entre 2 et 3 jours d'attente dans le principal laboratoire de Laval. Il est urgent de mieux s'organiser, selon François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes.
C'est vrai que ça risque de créer un mécontentement en disant, voilà, on n'est pas capable de répondre à la demande. Donc, la première des choses, c'est prioriser les gens qui ont des symptômes. Il faut le redire, parce que c'est eux qui, éventuellement, auront des cas contacts et pourront dépister d'autres personnes autour.
Il appelle un plan blanc de soutien pour les laboratoires afin d'être prêts en cas de deuxième vague.
Justin Morin, bonne nouvelle pour les baigneurs. Aucune trace de Covid-19 n'a été détectée dans l'eau de mer. L'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, a depuis la mi-avril procédé à 100 d'analyses partout en France. Résultat, ni l'eau de mer ni les coquillages ne présentent un risque sanitaire. Et puis, en Allemagne, si mon ordinateur veut bien marcher, je suis désolé, on en reparlera plus tard. Un espion présumé a été découvert dans le service de presse d'Angela Merkel. Un espion présumé égyptien. Il aurait espionné des journalistes égyptiens habitant outre-Rhin.
Il est 12h47.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et une bonne nouvelle pour le PSG qui affrontera l'Atalanta Bergame, club largement à sa portée. Pour Lyon, ce sera le Real Madrid ou Manchester City si les Lyonnais se qualifient à l'issue du 8e retour face à la Juventus Turin. A tout de suite.
Il est 12h50 sur Europe 1, la suite du journal Julien Pierce.
Ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort vient d'avoir lieu, Axel May, et le PSG s'en sort bien.
Oui, c'était il y a quelques instants en direct du siège de l'UEFA en Suisse.
Atalanta, Paris Saint-Germain.
Et oui, l'Atalanta Bergame n'avait jamais encore atteint les quarts de finale. Le PSG lui fait son retour à ce niveau de la compétition après 3 ans d'absence. Mais le ressenti des supporters parisiens, c'est que c'est clairement un tirage favorable que cet Atalanta Bergame PSG en quart de finale. Et même d'autant plus favorable qu'en cas de succès, le PSG, c'est un tirage intégral, rencontrerait en demi-finale le vainqueur du match qui opposera Leipzig à l'Atlético Madrid, parce que vous savez, dans cette situation assez particulière, une partie des huitièmes de finale retour n'ont pas encore eu lieu. Donc, le vainqueur du match Leipzig-Atlético Madrid, Leipzig qui est novice en quart de finale et l'Atlético qui est un adversaire accessible, rencontrerait le Paris Saint-Germain en demi-finale. Donc là, c'est tout au conditionnel, bien sûr. Autrement dit, Paris peut presque se prendre à rêver d'une finale. Mais attention, les Parisiens n'ont pas encore repris la compétition, contrairement aux Italiens, contrairement aux Espagnols. L'OL, qui doit encore jouer, je vous le disais, son 8e de finale retour dans un mois à Turin, hériterait en cas de succès du vainqueur, et là c'est plus compliqué, du vainqueur du 8e de finale retour, Real Madrid, Manchester City. Donc tirage au sort plus compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Les autres quarts de finale, il y aura le vainqueur de Naples-Barcelone face au vainqueur du match Chelsea-Bayern. Les matchs ont lieu du 12 au 23 août, à partir des quarts de finale, à Lisbonne, sans public. Voilà donc ce qu'on peut dire. L'Atalanta Bergame PSG en quart de finale. Et puis Lyon, s'il se qualifie, rencontrera le vainqueur du match entre le Real Madrid et Manchester City.
Merci beaucoup Axel May. Je précise que l'Olympique Lyonnais a gagné le 8e de finale aller face à la Juventus Turin sur le score de 2-1. Merci beaucoup Axel. Notre-Dame de Paris ressemblera en tout point à ce qu'elle était avant le terrible incendie qui l'a dévastée il y a 15 mois. Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir après une réunion avec les experts de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. La flèche sera reconstruite à l'identique et avec les mêmes matériaux, Nicolas Feldman.
Oui, et cela veut dire bien sûr la fin de toute une série de projets très contemporains.
Non, c'était un zéro.
Il y avait par exemple l'idée d'un toit-terrasse végétalisé, des projets parfois aussi extravagants comme une flèche lumineuse ou encore une toiture vitrée sur laquelle les touristes auraient pu déambuler. Et puis bien sûr, cette idée de flèche en verre, une idée défendue par plusieurs architectes, dont Jean-Michel Villemotte. Il y voyait là un écho visuel à la pyramide du Louvre.
Il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec nos savoir-faire. Et c'est dommage qu'on n'ait pas utilisé une vitrine aussi importante pour montrer un savoir-faire français bien spécifique, qui peut être l'occasion de pouvoir refaire cette flèche dans la même silhouette, mais en utilisant des matériaux de synthèse, des matériaux d'aujourd'hui.
Voilà, Notre-Dame va donc retrouver sa flèche telle qu'elle apparaissait sur l'île de la Cité depuis le 19e siècle. D'après l'architecte en chef de la cathédrale, le grand avantage de reconstruire à l'identique, c'est de pouvoir tenir les délais, 50 chantiers.
Nicolas Feldman, et puis petite erreur tout à l'heure, Lyon a gagné 1-0 face à la Juventus Turin lors du 8e de finale aller et non 2-1. Toutes mes excuses. Il y a d'ores et déjà du monde sur les routes pour ce deuxième week-end de départ en vacances, synonyme de pont du 14 juillet pour certains d'entre vous, c'est rouge en Ile-de-France et orange partout ailleurs. Et à midi, vous vous demandez sûrement ce que vous allez bien pouvoir manger sur l'aire d'autoroute. Eh bien, on ne laisse pas son ventre choisir à sa place. On le sait désormais, il y a un lien direct entre l'alimentation et la somnolence au volant, première cause de mortalité sur autoroute. Grâce à des volontaires qui ont testé plusieurs sortes d'aliments avant de s'installer dans un simulateur de conduite, l'association Attitude Prévention a pu définir le menu idéal pour garder les yeux ouverts. Alors, qu'est-ce qu'on mange au de Leroy ?
En entrée, privilégiez concombre, radis ou tomate. En plat, poisson blanc ou blanc de poulet avec des lentilles. Et en dessert, un kiwi ou un brugnon et un carré de chocolat noir. Le tout arrosé de grands verres d'eau. Le repas idéal au volant, c'est 500 calories maximum, explique le docteur Frédéric Salman, qui a dirigé l'étude.
Premier point, des aliments riches en eau et boire en même temps. Deuxième point, facile à digérer. Troisième point, index glycémique bas pour pas avoir un pic en sucre et un coup de pompe derrière, et un peu d'acidité et d'amertume parce que ça stimule.
Sauf que dans la réalité, les mauvaises habitudes ont la vie dure pour beaucoup de conducteurs.
Sur la route, je mange des hamburgers. Après ce repas, j'ai envie de dormir.
Généralement des sandwichs, de chips et autres sodas, plutôt bien sucrés, pour avoir un peu de fun sur la route.
L'autre gros avantage d'un menu équilibré et riche en eau, c'est que vous restez tonique au volant. Les réflexes sont là. Par exemple, avec un repas à 500 calories, il vous faut 2,50 m pour freiner. Avec 3 fois plus de calories dans le ventre, eh bien, il faudra 10 mètres pour freiner correctement.
Aude Leroy, on passe à la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Anissa Haddadi, des orages cet après-midi en Rhône-Alpes.
Oui, c'est là que le temps devient le plus menaçant avec cet après-midi des averses et des orages, vous le disiez Julien, sur l'est du Massif central jusqu'aux Alpes et même jusqu'au Jura. Hein. Le tonnerre va gronder cet après-midi. C'est en Ardèche, en Drôme et en Isère que les orages seront les plus forts cet après-midi. Donc prudence si vous nous écoutez dans l'un de ces trois départements. Un risque de grêle important cet après-midi. En bord de Méditerranée, le ciel reste ensoleillé, une belle journée d'été. Et puis partout ailleurs, eh bien cette perturbation nous apporte un ciel nuageux avec quelques averses tout au long de l'après-midi. Bonne nouvelle quand même de l'après-midi, c'est que cette perturbation avance et à l'arrière de cette perturbation sur le quart nord-ouest, c'est-à-dire de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, même jusque sur les Pays de la Loire, là le soleil est de retour cet après-midi. Ah. Ce qui annonce un beau week-end. Les températures, elles sont fraîches encore au nord avec 18 degrés à Dunkerque, 19 à Cherbourg, 21 degrés à Lille, 23 à Lorient et Tarbes, 24 à Paris et à Nantes. Ça a bien baissé, hein. Hier on avait plus de 30 degrés à Paris, 27 à Nice, 28 à Toulouse, 30 degrés à Dijon et à Bastia. Et puis alors dans le sud-est, là où l'orage va gronder cet après-midi, il fait lourd avec 32 degrés à Saint-Étienne, 32 pour Montpellier, 34 degrés à Lyon sous le tonnerre, 35 à Nîmes.
Et ce week-end, ma chère Anissa,
ah, je vous vois s'empresser de savoir à quoi va ressembler ce deuxième week-end du mois de juillet.
Oui.
Eh bien, je peux vous dire que ça sera très agréable. C'est le retour d'un temps estival. Samedi et dimanche, quelques petits passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Les températures sont agréables, mais pas trop chaudes. Ce seront des températures de saison. Lundi, encore une belle journée avec quelques gouttes pour la Corse. Hein, une petite perturbation qui passe sur la Corse. Mardi, c'est autre chose pour le 14 juillet. Je préfère
non.
Vous faire patienter.
Non, dites-nous.
Restons sur des bonnes nouvelles. Vraiment, vous voulez mardi 14 juillet ?
Il n'y aura pas de feu d'artifice à cause de la pluie, c'est ça ?
C'est-à-dire que toute la moitié nord sera sous les nuages avec pas mal d'averses mardi 14 juillet. Ouais.
Bon, merci beaucoup Anissa. Enfin, je ne sais pas si je dois vous remercier, mais
de rien,
merci pour ce week-end en tout cas.
Je fais ce que je peux. Hein.